les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Nathanaël Picasse, Alexandre Marlier.
Notre dossier aujourd'hui va tourner pas mal autour d'une seule et même lettre, à savoir la lettre L, puisqu'on parle du mot L.
Oui, et non pas du monde L, mais ça Nathanaël va nous en parler, c'est bien évidemment de L Word dont on vous parle aujourd'hui, diffusé sur Showtime en 2004 et en France sur Canal+, depuis 2005, c'est bien ça?
Exactement,
ah,
oui.
Cool.
Mais tu fais bien de rectifier déjà tout de suite le fait que ça ce n'est pas de L Word, donc c'est pas le monde L comme beaucoup de gens font l'erreur, c'est plutôt le mot L, L Word. Alors pourquoi ce titre? Eh bien, il faut savoir que dans la langue familière, en anglais, pour éviter de dire certains mots tabous, on ne mentionne que la première lettre. Ainsi, on parle du F-word pour éviter de dire fuck. Oh, zut, je l'ai dit. Merde.
Qu'est-ce que c'est que ce mot L alors?
Alors, the L-word, eh bien, en fait, joue exactement sur cette particularité de la langue et tourne autour de tous les mots qui commencent par L. Love, liaison, libération, lutte, lascive, libertine et bien sûr, lesbienne. À noter d'ailleurs que le titre français a été traduit de façon assez maligne par L, donc le féminin de il au pluriel. Alors, il était grand temps qu'une série comme ça arrive, parce qu'après la déferlante des cuirasses folk, Will and Grace et autres Six Pieds Sous Terre, elle manquait vraiment la série.
Les actrices n'avaient plus de travail, c'était un peu embêtant.
Exactement.
C'est vrai que c'était encore un des derniers tabous à la télévision.
Oui, voilà.
Actrices qui n'ont pas de travail.
Non. On a souvent trouvé des personnages homosexuels secondaires dans différentes séries, mais je n'ai pas souvenir d'avoir eu tant que ça des personnages lesbiens.
Non, c'était plutôt les hommes, en fait, justement. Ouais. C'était assez particulier à croire que voilà, l'homo mâle était plus facilement transposable dans une série. Alors souvent on tombait dans le stéréotype, alors soit on avait le séropositif touchant sur le point de mourir, ou alors la folle d'à côté qui fait rire tout le monde mais qui n'a aucune sexualité, aucun petit ami comme par hasard. Et côté fille, c'était vraiment le désert, ou alors quelques lesbiennes grosses et moches qui rebutaient tout le monde, ou alors qui étaient juste là pour un petit ressort comique.
Oui, c'était pas des personnages récurrents.
Non.
Ou à contrario, l'héroïne qui de temps en temps échange un baiser lesbien histoire de reprendre.
Pour l'audimat souvent d'ailleurs. On en parle souvent à l'avance sur internet, genre oh, attention, Jennifer Aniston embrasse Winona Ryder dans Friends. Voilà, alors donc il n'y avait rien de très réjouissant. Mais alors, la première avancée remarquée dans le domaine fut le coming out de Willow dans Buffy. Bah oui, forcément, il fallait que j'en parle. Qui vivra une relation touchante avec la jolie Tara, une relation malheureusement condamnée à l'issue de l'avant-dernière saison par la mort cruelle et déchirante de la petite amie de la sorcière. Un parti pris qui laissera un petit goût amer à certaines lesbiennes, car elles y comprenaient le message. Bon, une relation lesbienne, d'accord, mais c'est un peu impossible et c'est punissable par la mort. Bon, j'irai peut-être pas jusque là parce que la mort de Tara servait un intérêt narratif qui dépassait sa simple relation avec Willow, mais disons qu'elle s'est trouvée là au mauvais moment, on va dire. Donc il faudra attendre Queer as Folk, il faudra attendre qu'il fasse son apparition sur le tube cathodique pour qu'on se rende compte qu'une série avec une majorité de personnages homosexuels pouvait exister et surtout pouvait être intéressante. Et pas destinée simplement au ghetto. Avancée majeure dans cette série, c'est que ces personnages ne définissaient plus leur homosexualité à travers une pseudo-culture gay, politiquement correcte, qui permettait de faire passer la pilule d'un personnage étrangement asexué. En d'autres termes, à de rares exceptions près, les séries d'avant nous présentaient des personnages homosexuels qui, bizarrement, n'avaient aucune relation sexuelle avec des personnes du même sexe que, ce qui est pourtant pour moi la caractéristique majeure de l'homosexualité. Donc on essayait de cacher ça sous diverses références à la culture gay. Bref, Queer as Folk donnera un grand coup de pied dans la fourmilière en montrant des gays ayant de fréquentes relations sexuelles entre eux. Brillamment écrite, la série fera des émules pour un plus grand bonheur et c'est là que The L Word arrive. Et c'est grâce à Ellen Shaken qu'on doit cette arrivée. Et elle s'est pour cela entourée de brillantes scénaristes, lesbiennes aussi, dont, alors je vais essayer de prononcer correctement, Guinevere Turner, qui avait écrit Go Fish ou le scénario de American Psycho. Il y avait aussi Rose Troche qui avait signé quelques scénarios de Six Pieds Sous Terre et Lisa Cholodenko. Alors c'est tous les noms à coucher dehors, vous en conviendrez. Bref, l'histoire, eh bien la série raconte les péripéties de plusieurs amies, femmes, lesbiennes qui vivent à Los Angeles et tout commence par l'arrivée de Jenny, fraîchement diplômée de l'université de Chicago, qui s'installe chez son petit ami Tim. Kim. Rapidement, elle fera la connaissance de ses nouvelles voisines, Beth et Tina. Alors, ces deux femmes forment un couple solide depuis de nombreuses années et tentent d'avoir un enfant. Jenny entre alors dans un nouveau monde, celui de la communauté lesbienne. Elle y rencontre, outre Beth et Tina, Shane, une coiffeuse au look androgyne qui multiplie les conquêtes en lendemain. Mais il y a aussi Alice, une journaliste bisexuelle qui tente de constituer une base de données lesbienne. Donc, en fait, elle essaye d'indiquer qui a eu une relation sexuelle avec qui. Elle relie, en fait, selon la règle de 6, c'est-à-dire qu'on connaît tout le monde selon 6. Donc c'est, par exemple, je connais Sarah, qui connaît une autre personne, qui connaît une autre personne, qui connaît Michael Jackson, par exemple. Donc voilà, on a...
On est tous rassemblés aussi, à quelqu'un par 6 voilà. personnes, par donc, l'intermédiaire de 6 personnes.
Elle crée cette toile d'araignée,
elle
en fait.
Elle a du temps à perdre, cette jeune fille, non?
Non, elle est journaliste, bon, elle veut essayer de faire un article intéressant là-dessus, d'accord. Et d'ailleurs, elle essaiera de le proposer à son rédacteur en chef, qui lui dira, je préfère que tu fasses un article sur une opération chirurgicale vaginale, voilà, un rafraîchissement vaginal. C'est très très fin. Ensuite, il y a Dana, qui est une joueuse de tennis professionnelle, qui n'a pas encore fait son coming out public. Bien qu'elle ait fiancée à Tim, eh bien Jenny se sentira irrémédiablement attirée par Marina, la tenancière du bar que fréquente le groupe de femmes. Une attirance partagée qui signera le début d'une relation passionnelle entre les deux femmes.
Qu'est-ce qui se passe entre Jenny et Marina ?
Je sais pas au courant.
Pourquoi, il y a quelque chose entre Jenny et Marina ?
Écoutez, les filles ne sont pas nos oignons,
d'accord ? Je croyais que Jenny était hétéro.
La plupart des filles le sont jusqu'au jour où... Et puis il y a aussi celles qui sont lesbiennes jusqu'au jour où elles deviennent hétéro.
Mais il y a aussi celles qui restent lesbiennes. Et celles-là, tu peux les repérer à 1 kilomètre.
Comment tu le vois ?
En captant les signes.
C'est ça mon problème.
Non, Dana, c'est pas un problème. C'est simple, je t'assure. La sexualité, c'est fluide. Que tu sois gay, que tu sois hétéro ou bisexuel, tout ce qui compte, c'est de suivre le flux.
Non, justement, c'est ça. C'est ça mon problème, ok ? Je ressens pas ce flux. J'ai pas ce truc-là, cet instinct dont tu parles.
Tu n'as pas d'antenne, alors ?
Non.
Ah non, sans déconner, t'as pas d'antenne ?
Tout le monde en a, arrête.
Tu sais pas le
écoute, t'observer, mais si.
Bon, attends, prends cette nana là-bas.
Oui.
Elle est quoi, selon toi ?
Je sais pas, une cliente ?
Oh, j'en sais rien.
Regarde ses ongles, vois s'ils sont longs ou s'ils sont courts.
S'ils sont vernis ou naturels ?
Ils sont longs et vernis. Donc, elle est...
hétéro, mais il te faut plus d'infos.
Oh, regarde ses chaussures.
Des sandales à talons hauts.
Et le cul serré dans un jean. Tu porterais des sandales à talons hauts avec des jeans moulants, toi ?
Oui.
Arrête, Oshar.
Oh, écoutez, j'ai vu cette fille que dans son uniforme de cuistot.
Cette nana-là n'est pas un chef cuistot.
Attends, t'as pas pigé ? Dana Albéguin pour une chef cuistot.
Eh oui.
Eh oui.
Alors là, tu m'embouches un coin. Tu as craqué pour une fille. Tu veux savoir si elle broute ?
Elle broute ? Si elle fait partie de la famille. Si elle est gay.
Pourquoi, il y a une communauté bisexuelle ?
Quoi ? Okay. Je veux bien t'aider, ma grande, même si tu es extrêmement agaçante. Connais-tu les noms et prénoms de cette fille ?
Oui, je les connais.
T'es au courant de mon histoire de toile ?
Oui.
Dans ce cas, je vais mettre son nom sur Internet.
Tu vas quoi ?
Oh là, pas de panique. C'est super cool. Ce truc grandit. Il y a de plus en plus de gens qui ajoutent leur nom. La toile grandit de façon exponentielle.
Ouais, ouais, exponentielle, c'est très clair. Ouais.
Elle parle entre elles, mais est-ce qu'il y a des mecs dans cette série ?
Oui, bien sûr. Il y a, bon, c'est majoritairement féminin, bien sûr, puisque c'est le principe de Hellward. Mais il y a effectivement des personnages masculins, dont le personnage de Tim, hein, le petit ami de Jenny, qui est un personnage assez touchant, en fait. Bon, il va s'en prendre un peu plein la figure, le pauvre, mais voilà, il va pas devenir tout de suite l'ennemi public à abattre. Donc ça, c'est assez plaisant. Alors, il faut dire aussi que Hellward, puisqu'on parle un peu des femmes, on va parler un peu du casting qui se retrouve là-dedans. C'est pas spécialement des grandes stars, mais je trouve qu'ils ont fait un choix de casting assez intéressant, puisque les actrices sont vraiment en fusion totale avec leurs personnages. Parmi les plus connues, citons quand même Beth, qui est jouée par Jennifer Beals. Alors, ce nom ne vous dit peut-être pas quelque chose, mais si je vous dis que c'est elle qui jouait l'apprentie danseuse en Flashdance... Je suis certain que maintenant vous voyez à peu près à quoi elle ressemble.
What a feeling.
What a feeling,
yes,
what a feeling. Et puis surtout cette séquence d'intro où elle est un peu sexy en train de faire un peu de soudure comme ça. Enfin bon bref. Si moi je m'en souviens.
Je me souviens que des scènes de danse. C'est peut-être parce que j'ai vu que la fin. Pardon.
Je vais jamais y arriver, vous ne m'aidez pas. Alors bon. Beth est clairement l'un des personnages majeurs de la série. Elle tient une galerie d'art et tente de bousculer la vision étriquée d'une morale trop puritaine en proposant des expositions un peu choc, dont provocation, qu'elle essaye un peu d'imposer. Mais sa réussite sociale n'efface pas le malaise permanent de son couple. Parce que Beth, donc, sort avec Tina depuis de nombreuses années. Elles essayent d'avoir un bébé, mais Beth se pose beaucoup de questions sur son amour pour Tina. Un amour qui sera mis à rude épreuve à la fin de la saison 1. Scène de quasi-viol entre femmes en perspective. Voilà, je vous préviens. Il faut dire quand même que ce personnage doit beaucoup à l'interprétation sans fausse note de Jennifer Beals. La sœur de Bette, Kit, elle est jouée par Pam Grier. Elle, c'est l'égérie de Tarantino dans Jackie Brown.
Une ex-star de la Blaxploitation.
Exactement, des années 70. C'est elle qui faisait Foxy Brown.
Tout à fait.
Voilà. Et bien, son personnage de personnalité de la chanson tentant de combattre ses vieux démons et se défaire de sa dépendance à l'alcool est aussi un des plus touchants de la série. Elle est vraiment très très bien dans son rôle. Il y a aussi Jenny, qui est jouée par Mia Kirchner, qui avait marqué les esprits dans une apparition dans la série 24 heures chrono. Voilà, elle apporte une candeur déchirante à un personnage qui atteindra une forte densité dramatique au fil des épisodes, notamment lorsqu'elle se rendra compte qu'elle est vraiment attirée et par les hommes et par les femmes. Et la série aligne également quelques guest stars assez inattendus, Rosanna Arquette, qui tombera amoureuse de Shane, et il y a aussi Snoop Doggy Dogg, qui joue fréquemment dans la série. C'est assez étonnant, on se demande un peu ce qu'il fait là, mais il est très sympathique, il a un chouette rôle. Voilà.
À chaque fois que je vois des présentations de la série, je suis pas attiré par cette série, pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression que, contrairement à Queer as Folk, où les personnages avaient 20, la trentaine peut-être parfois, ici j'ai l'impression que les personnages qu'on voit dans Hellworld sont des quadragénaires.
Elles sont entre les 30-40 ans.
J'ai l'impression que la série tente à cibler des gens un peu plus âgés. Plus des quadragénaires que des...
Disons que le casting a soulevé pas mal de critiques, en fait. Déjà, rien que par le fait qu'on reproche que les actrices sont trop belles, déjà. Ça, c'est un peu particulier. Les lesbiennes qui sont présentées dans la série sont toutes sexy, féminines. On appelle ça des lipsticks, donc des lesbiennes rouges à lèvres. Féminines, quoi, voilà, dans le langage gay. La seule exception étant Shane, qui se retrouve plutôt dans la catégorie butch. Alors ça, on peut traduire par garçon manqué. Et encore, celle-ci est relativement soft dans son rôle de butch. Au niveau des personnes plus âgé, là, je crois que c'est vraiment l'histoire qu'ils essayent de raconter. Je crois qu'il n'y a pas vraiment d'incidence.
Parce que personnellement, moi, c'est un frein. Ça ne m'a jamais attiré de regarder The Hellworld, justement, à cause de l'âge des personnages, parce qu'il n'y avait pas un éventail très large. J'avais toujours l'impression que l'ensemble des personnages a une bonne quarantaine d'années.
Non, c'est plutôt dans le 35 ans.
Bon, c'est une mauvaise image de la série, alors.
Oui, peut-être. Mais pour en revenir sur le problème de, aurait-on peur encore de montrer des lesbiennes masculines à la télévision? Eh bien, de toute évidence, oui. Même l'une des scénaristes, la fameuse Guinevere Turner, appuie ce choix qu'elle dit politique, puisque selon elle, représenter des filles féminines et donc non menaçantes pour un public non gay était une façon de s'adresser à un plus large public et éviter la ghettoisation de la série. Elle déclare elle-même, si j'avais montré toutes les sortes de lesbiennes que je connais, les gens auraient pris peur. Au moins, ça mérite d'être clair.
Ah, c'est une chose qu'on n'a pas ressentie avec Queer as Folk, qu'on a l'impression qu'ils ont peut-être un peu moins réfléchi justement à ne pas choquer.
Ce qui se passe aussi, c'est que comme il y avait un énorme tabou encore par rapport à ça, c'est la première série dans ce style-là. Je crois qu'il faudra peut-être attendre encore quelques années avant qu'ils osent aller, mais voilà, c'est quand même déjà un grand pas en avant.
Et est-ce qu'ils osent aller assez loin dans les scènes de nu et dans
énormément, oui, il y a énormément de scènes de coucherie. Et bon, ils osent, quoi. Je vais quand même tempérer cette critique comme quoi il y a que des personnages féminins. Parce qu'il faut pas oublier que l'histoire se déroule à Los Angeles. The Hellworld est une série qui tourne autour de lesbiennes, mais de lesbiennes de Los Angeles. Et d'après quelques amis qui se sont rendus là-bas. Apparemment, les lesbiennes là-bas sont dans ce style-là. Sont lipstick, sont des femmes d'affaires qui ont réussi, ne collent pas à ce cliché habituel de la femme très masculine.
Tu sais, toute ma vie, j'ai entendu des gens me dire que je deviendrais psychopathe si je n'apprenais pas à aimer. Je voudrais savoir ce qu'il y a d'aussi génial à aimer quelqu'un. Parce que c'est ce que j'ai fait, mais aujourd'hui, on dirait qu'on m'a complètement écrabouillé le cœur. J'en suis désolée. J'ai été folle de croire qu'un jour on pourrait être ensemble toutes les deux. Parce que ça avait l'air vrai. Ce n'était qu'une illusion. J'ai sûrement dû halluciner. J'aurais juré que tu ressentais la même chose pour moi. Et si c'était le cas, quelle différence ça pourrait faire? Oui, même si durant le temps qu'on a passé ensemble, je me suis sentie plus vivante que pendant les 20 ans qui viennent s'écouler. Si c'était vraiment le cas, est-ce que tu crois que je quitterais mon mari, ma fille, mes... résidence de Bel Air, de East Hampton et mes voyages à Paris. Mais mes soirées mondaines pour
filer vivre dans un petit nid d'amour crasseux avec une jeune assistante coiffeuse qui a tout juste 25 ans et qui démarre à peine dans la vie. Dans ce putain de monde pourri, ce genre d'amour n'a aucune chance d'exister.
Alors en t'écoutant, on se dit qu'il y a quand même quelques points de ressemblance avec Queer as Folk. Est-ce que, on en parlait déjà lors du dossier qu'on avait fait sur Queer as Folk, est-ce que c'est aussi ghettoisé?
Non, c'est vrai que c'est une question qui mérite d'être posée, puisqu'on se dit voilà, série lesbienne, 80% des personnages là-dedans sont des lesbiennes, on y voit énormément de relations sexuelles entre femmes. Et bien,
dans Queer as Folk, il y avait, enfin, je me souviens pas d'avoir vu un seul hétéro, ou alors c'était vraiment des figurants quoi.
Oui, très rarement. Ici aussi, il y en a rarement, mais en même temps, c'est pas aussi ghetto. Déjà dans cette représentation peut-être un petit peu moins trash que Queer as Folk, puisque c'est des femmes un peu plus féminines comme on l'a dit, et puis aussi parce que ben, tout simplement cette série parle d'amour avant tout, et que toutes les situations que ces lesbiennes traversent peuvent être transposées à n'importe quelle forme de sexualité, puisqu'on voit par exemple le couple qui est ensemble depuis trop longtemps qui ignore si elle tient encore par habitude ou plutôt par amour. Il y a le personnage de Shane qu'on pourrait transformer en personnage de tombeur qui multiplie les conquêtes sans lendemain et qui tombe comme par hasard amoureux de la personne qu'il faut pas, la plus inaccessible possible, et qui va avoir le cœur déchiré et qui va se promettre certainement de ne plus aimer. Ou encore les deux personnages qui passent leur temps à se prendre le bec pour mieux cacher leur attirance mutuelle. Donc ça, c'est des histoires qui peuvent vraiment toucher tout le monde. Moi, je me suis senti vraiment très concerné par chacun des rôles. Et puis, c'est tellement bien joué aussi qu'on y rentre facilement. Et c'est moins agressif, je dirais, que Queer as Folk. Parce que c'est vrai que moi, la première fois que j'avais vu Queer as Folk, j'avais un peu, oula, ils vont loin. Ici, c'est plus en douceur, mais l'effet est le même au final, quoi. On voit vraiment des choses très intéressantes. Sans compter aussi que la série est franchement drôle par moments. Surtout avec les péripéties autour du personnage d'Alice, donc la journaliste bisexuelle qui s'est lancée dans cette fameuse toile avec Je connais tout le monde à 6 degrés. Elle arrivera, par exemple, à sortir avec un homme lesbien, donc c'est très particulier, qui s'appelle Lisa, donc un homme qui se dit lesbienne, et donc par exemple elle va vouloir faire l'amour avec lui, mais il voudra utiliser un godemiché pour lui faire l'amour, alors bon, ça la frustre un petit peu, elle finira par le quitter parce qu'elle le trouve trop lesbienne. Voilà. Bon, c'est le gag que j'avais beaucoup aimé. Oui, ça va des fois très loin, mais c'est vraiment très drôle, parce qu'on se dit oula, quand même, c'est vraiment un personnage qui est très chouette, mais je trouve par contre dommage que c'est un ton comique qui s'est face au cours des saisons, pour verser dans le dramatique absolu. Les derniers épisodes de la saison 2 sont très éprouvants pour les nerfs, sont vraiment des gros tire-larmes, et le plus dur est encore à venir, puisque dans la saison 3 chacune des femmes fera face à un drame très important. Fort heureusement, la saison 4 est annoncée plus légère, alors espérons que Guinevere, encore elle, Turner, en fera partie, parce qu'en fait à l'issue de la saison 2 Elaine, Shaken et elle se sont disputées parce que Guinevere essayait de pousser la série vers quelque chose de plus léger en essayant d'approfondir le côté soap opéra, tandis que Shaken la poussait plus pour la rendre noire et difficile. Et donc le départ de Turner dans la fin de la saison 2 a laissé le champ libre à Shaken pour la saison 3, mais là elle a pris le risque aussi de déplaire. Il y a beaucoup de gens qui ont décroché dans la saison 3 malheureusement, donc on espère que la saison 4 va relever un petit peu le niveau, même si la plupart des gens qui sont vraiment accrochés au personnage disent qu'elle est très dure, mais en même temps ils n'en peuvent plus d'attendre la saison 4. Au final, je dirais que The L Word est avant tout une comédie de mœurs, douce amère, au ton qui est de plus en plus grave au fil des saisons, mais qui plaira aux amateurs de bonnes séries, bien écrites et surtout bien jouées, parce qu'il y a vraiment un casting très 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 juste. Alors je voudrais quand même noter que l'épisode pilote est clairement l'un des plus ratés de la série. Moi-même, quand j'ai regardé le premier épisode, on m'a dit oh, tu vas voir, regarde, ça va être vraiment très très chouette. Premier épisode, un petit peu dur, je me suis dit bon, c'est du déjà vu, il y a rien de, les personnages sont pas particulièrement impressionnants dans leur écriture et tout, et puis heureusement après ça décolle, et je trouve qu'il y a vraiment certains épisodes qui tutoient le magnifique quand même, hein. Donc voilà.
Tu apprécies plutôt.
Oui, j'apprécie plutôt, oui.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.